Nous sommes à présent au kilomètre 256 en partant des sources de la Seine à Source-Seine, près de Dijon, en remontant la Seine. Et nous sommes devant le 77 rue de Lourmel, dans le 15e arrondissement de Paris. Je vais vous parler ce matin d'une femme extraordinaire, une Russe, qui s'appelait Maria Skoptskova, qui est née à Riga en 1891 et morte à Ravensbrück en 1945. Elias Canetti disait que ce devrait être un titre non de gloire mais de honte d'avoir vécu au XXe siècle certaines destinées, dont celle de Marie, rachètent un peu de cette honte. Son vrai prénom était Elisabeth. C'était la fille d'un magistrat qui exerçait à Riga et d'une jeune fille de l'aristocratie. Et c'est ainsi qu'Elisabeth Marie, amoureuse de la poésie comme de la justice, aura une vie qu'on dirait tirée à la fois des livres de Bulgakov et, plus tragiquement, des livres de Primo Levi. À 15 ans, elle n'aime rien tant que la littérature et les écrivains. Elle rencontre Alexandre Bloch. Elle désespère de se faire aimer de lui. Alexandre Bloch lui dédie un de ses poèmes, « Rien ne va plus loin ». Et comme on fait des erreurs et comme elle est déçue, elle épouse non un poète, mais un juriste et fait un mariage qui ne sera pas heureux. En Russie, c'est l'époque de ce qu'on a appelé l'âge d'argent, un âge de la poésie avec Bloch, c'est l'époque du premier Nabokov, du Pétersbourg de Bieli. Elle publie plusieurs recueils et puis, comme l'inquiétude religieuse ne l'a jamais abandonnée, elle devient la première femme à suivre des cours à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg. Elle est aussi sensible à cette époque, au moment de la première révolution russe en 1905, à la misère de la classe ouvrière qu'une industrialisation récente a fait naître, et elle devient SR, c'est-à-dire socialiste révolutionnaire, l'année même de la naissance de sa fille. Fille née d'ailleurs hors mariage d'une aventure avec un homme dont on n'a jamais su le nom. Et puis son mariage se dissout, vient la révolution. Au moment de la révolution, elle réside dans une petite ville qui s'appelle Anapa. Et elle est élue, maire d'Anapa, enfin moitié élue, moitié nommée, au nom non pas des socialistes révolutionnaires qui n'ont déjà plus le vent en poupe à cette époque, mais avec le soutien des bolcheviks. Elle devient donc le maire rouge d'Anapa. Puis les Blancs prennent la ville, c'est l'époque magnifiquement décrite de Bulgakov dans La Garde Blanche. Les Blancs prennent la ville et ils la font évidemment passer en jugement. C'est une bolchevique, une rouge. Mais elle est tellement aimée, elle a été tellement efficace qu'ils la quittent et qu'ils lui demandent de rester maire, mais cette fois pour les Blancs. Et voilà Elisabeth qui devient maire pour les Blancs. Elle se remarie alors pour la deuxième fois avec Daniel Skoptskov, qui avait été juge à son procès. Et puis finalement, la guerre civile s'intensifie, les Rouges réapprochent de la ville. Il y a fort à parier que ce coup-ci, personne ne sera aussi indulgent à son égard, même si la population l'aime. Elle quitte la Russie, elle se rend d'abord en Crimée, et puis elle arrive à Paris en 1923 en passant par Constantinople. C'est un trajet que beaucoup ont fait, comme on sait, dans cette première émigration russe, et en particulier Nabokov qui l'a magnifiquement décrite. Cette émigration russe met sur le pavé de Paris une foule misérable, évidemment. On se souvient de manière folklorique et abusive d'ailleurs des chauffeurs de taxi. Ce sont des milliers de personnes qui sont plongées dans la tristesse, la nostalgie, la misère, comme beaucoup d'exilés, de réfugiés. C'est l'époque du passeport Nansen. Et en plus, elle se remet mal de la mort de sa fille. Et à Paris, dans les années 25-30, elle se lance à corps perdu dans l'action et elle crée Avenue de Saxe, puis ici, au 77 rue de Lourmel, un foyer d'accueil. Et c'est alors qu'elle rentre dans les ordres et devient religieuse orthodoxe sous le nom de Marie. Vient la Seconde Guerre mondiale et elle n'a pas une seconde d'hésitation. Elle a discerné avec cette sûreté qu'ont quelquefois les spirituels, depuis longtemps, la véritable nature du nazisme. Ce qui fait que le centre Lourmel, non content de cacher des Russes, cache des Juifs et des résistants, et surtout beaucoup d'enfants juifs auxquels elle trouve des refuges dans la province française. En 1942, par exemple, elle sauve directement 3 enfants juifs de la rafle du Veldiv. Elle est dénoncée par des proches, par des voisins, par la presse de la collaboration. Son fils et son confesseur sont arrêtés par la Gestapo et déportés. Et elle est à son tour déportée en 1944. C'est en 1945, au début de 1945, qu'elle meurt à Ravensbrück, après avoir pris la place d'une déportée dans la fille des chambres à gaz. Marie Skoptskova s'appelle maintenant Sainte Marie de Paris dans l'Église orthodoxe. Elle a été canonisée en 2004 et elle est juste parmi les nations. Arrêtons-nous Malgré le tragique de cette destinée, un instant sur cette vie, sur cette existence frémissante, on y prend le goût de ce que saint Paul appelait la liberté des enfants de Dieu. Voici une poétesse d'avant-garde, amoureuse d'Alexandre Bloch, jeune et belle, écoutant ses passions, deux fois mariée, divorcée, ayant eu un enfant naturel à la suite d'une brève liaison, dévouée au bien, au point d'être reconnue par les bolcheviks comme par les blancs, puis religieuse pour finir, mais avant tout consacrée par ce qu'elle a elle-même appelé dans un livre remarquable, le sacrement du frère, et c'est ce sacrement qui l'a conduite à Ravensbrück. Au fond, je me dis souvent que la vie des saints nous paraît d'autant plus hors d'atteinte qu'ils ont partagé avec nous, par exemple, le goût de l'amour et celui de la littérature. On se demande, à lire ces existences, qu'est-ce qui nous aura manqué? Peut-être au fond n'y a-t-il pas d'autre mystère théologique que le mystère de la destinée individuelle. De cette destinée, je voudrais vous montrer deux instants dans les mille vies de Marie de Paris. Le premier, c'est Léon Trotsky, qui avait entendu parler d'elle, et qui émigre à son tour, et qui vient la voir à Paris, rue de Lourmel, avant de gagner le Mexique. Elle le reconnaît, il lui demande ce qu'il peut faire pour elle, et lui répond simplement « Vous pouvez aller m'acheter du pain pour ceux qui n'en ont pas ». Le deuxième instant, c'est celui où, peu avant sa mort, elle achève au camp de concentration cette sorte d'icône de Ravensbrück, qui est en fait un dessin que l'on vénère encore aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une icône, c'est plus qu'un griffonnage. Et le Christ est représenté dans les bras de sa mère, comme dans une Pietà. Mais c'est un petit enfant crucifié. À Ravensbrück, elle ne cessait pas de parler, on dit les témoins, à celle qu'il voulait. Geneviève de Gaulle a fait un portrait d'elle où elle la montre toujours soucieuse d'engager la conversation, toujours soucieuse d'être présente aux autres. Et c'est ainsi que la nature humaine ne serait pas détruite. Elle conservait la nostalgie agissante de ce qu'elle avait appelé elle-même la beauté salvatrice. C'est frappant parce que tout était horrible autour d'elle et que, au fond, la seule idée qu'elle pouvait, j'imagine, avoir de cette beauté était devenue intérieure ou s'était réfugiée dans l'échange entre une, deux ou trois personnes dans cette situation épouvantable. Et c'est ainsi pour finir qu'elle a accompli, en prenant la place d'une autre pour aller à la mort, son dernier acte d'absolue liberté. Le grand philosophe russe Nicolas Berdiaïev a écrit d'elle qu'elle ignorait la peur. On n'en sait rien au fond. On ne sait jamais si quelqu'un ignore la peur ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait, pour la liberté, une passion absolument salvatrice et qui, depuis son plus jeune âge, et même au travers des épisodes de sa vie personnelle, avait tout emporté. Dans un de ses poèmes, on peut lire ces trois vers. J'ai cherché la tribu mystérieuse de ceux qui, au milieu de la nuit, restent voyants, qui ont éliminé dans la vie les délais et le temps.